Oreilles curieuses, le concours de création sonore de Radio Campus Paris, en direct depuis Petit Bain, de 18h à 21h. 3 heures de son curieux sur le 93.9 FM.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans cette 5e édition du concours Oreilles curieuses. Nous sommes en direct depuis Petit Bain. Vous venez d'écouter le DJ set de Chelou, la playlist déjantée de Radio Campus Paris. Et maintenant, nous sommes réunis pour une heure d'émission dans laquelle nous allons découvrir les lauréats de cette année 2022 et écouter leurs créations sonores. Nous avons le plaisir d'être en compagnie d'un membre du jury pour le moment, Simone Doueck. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous attendions Adrielle de Guillermet qui peut-être nous rejoindra. En tout cas, ce soir, moi, je suis particulièrement ravie d'animer cette émission avec Suzanne Sanka, qui est volontaire à la technique à Radio Campus Paris et responsable du pôle création sonore. La soirée finira en beauté à 20h avec un live de l'artiste pluridisciplinaire Théa Sotti. Bienvenue sur Radio Campus Paris. Nous sommes donc ravis d'être réunis aujourd'hui pour cette 5e édition du concours Oreilles curieuses. Mais qu'est-ce qu'Oreilles curieuses, Suzanne ?
Alors, Oreilles curieuses, c'est un concours de création sonore qui est organisé chaque année depuis 5 ans par Radio Campus Paris et qui récompense une production de 5 minutes de création sonore réalisée par des franciliens et des franciliennes. Chaque année, l'équipe de Radio Campus Paris sélectionne des anciens titres d'émissions de notre antenne qui servent de thème pour la création des candidats. Alors cette année, les thèmes étaient...
Alors, point de fuite, la première impression, c'était pas mieux avant, rétrozone, cherche la petite bête, une heure avant la fin du monde, les fonds de tiroir, le temps d'un plongeon.
Voilà, donc c'était les 8 thèmes à partir desquels les participants étaient invités à imaginer une création sonore. Et c'est un thème d'inspiration, il n'était pas obligatoire de connaître l'émission. L'accent était mis sur l'originalité et l'interprétation de ces titres. Et je rappelle enfin que ce concours ne peut exister sans le soutien de tous nos partenaires. Donc nos partenaires sont le magasin de musique Paul Boecher, le logiciel de montage Hindenburg News, la plateforme de podcast Ocha, L'Onde Porteuse, qui est une association basée à Clermont-Ferrand, qui fait notamment des formations de création, et bien sûr Petit Bain, qui nous accueille ce soir.
Oreilles curieuses, le concours de création sonore de Radio Campus Paris, en direct depuis Petit Bain, de 18h à 21h. Il est temps de vous présenter et de remercier les membres du jury de cette année. Aude Rabillon, compositrice et créatrice sonore, François Bordeneau, qui produit l'émission Récréation sonore sur nos ondes, Wes Stéphane, musicien et bricoleur d'instruments, multi-instrumentiste, Mathilde Schonauer-Sebag, lauréate de la précédente édition. Et aujourd'hui, parmi nous, sur le plateau radio à Petit Bain, nous accueillons Simone Doueck. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé en tant que documentariste pour France Culture et vous êtes l'autrice de L'Acte radiophonique, une esthétique du documentaire, paru en 2021 aux éditions Créafis.
C'est bien ça. Oui.
Est-ce que vous voudriez un peu présenter votre travail à nos éditeurs et nos auditrices et notre public ?
Oui, alors je présente le livre peut-être déjà et qui induit tout le travail documentaire et radiophonique que j'ai fait. Donc ce livre, L'Acte radiophonique, est un peu une somme de réflexions sur toutes mes expériences radiophoniques qui ont vraiment navigué dans beaucoup de domaines. Enfin, quand je dis beaucoup de domaines, c'est-à-dire que je me suis quand même contentée de traiter ce qui me plaisait, moi, c'est-à-dire ce qui était de l'ordre du désir de transformer en radio, c'est-à-dire que beaucoup la littérature, l'art, le cinéma... L'ethnologie m'a aussi beaucoup intéressée. D'ailleurs, très intéressant de voir comment la pratique de l'ethnologie et la pratique de la radio ont au départ peut-être un tronc commun. Enfin, j'ai fait aussi toute forme de radio, c'est-à-dire j'ai fait du direct, j'ai fait des entretiens en faux direct, ça veut dire mais dans les conditions du direct. J'ai fait aussi énormément de documentaires. En fait. De plus en plus, la production documentaire que j'ai faite a pris le pas et a pris de l'importance sur les autres forme radiophonique et alors, que j'ai pu pratiquer.
Pourquoi la forme documentaire a pris le pas ?
Ah mais elle a pris le pas parce que le documentaire pour moi c'est c'est quelque chose d'extraordinaire au niveau de l'écriture radiophonique. C'est-à-dire que quand j'ai donné ce titre à mon livre, l'acte radiophonique, c'était pour dire en quoi faire de la radio, enfin pour moi, c'est un engagement dans le fait de faire un documentaire, donc donner obligatoirement une information, c'est-à-dire obligatoirement partir du réel, mais ensuite essayer de donner à entendre ce réel de manière à ce qu'il devienne un objet esthétique et qu'il, en fait, emporte l'auditeur dans une sorte de narration, hein, et de composition. J'aime bien d'ailleurs appeler ça des compositions sonores maintenant aussi, qui ne sont pas de l'ordre de la musique ni de la musique électroacoustique, mais qui sont de l'ordre quand même de l'organisation, oui, d'une matière sonore. Et c'est ça qui m'a occupée et dont j'ai aimé parler dans ce livre, voilà, avec... Bon, les différents thèmes que j'ai pu aborder, différentes manières d'aborder soit le portrait, soit l'art, comment on aborde à la radio un objet muet et statique, mais comment on le fait éclater, exploser comme ça par les sons, voilà, toutes sortes de... Et j'ai bien sûr mis l'accent sur le montage, parce que le montage, c'est ce qui sous-tend l'écriture radiophonique.
Et alors, comment est-ce que vous avez découvert la radio ? Quels ont été vos premiers émois radiophoniques ?
Bah, je suis obligée de parler de moi. C'est-à-dire, c'est que j'entendais mon père parler à la radio quand j'étais vraiment très petite. Il travaillait aux émissions en langue arabe, parce qu'il était arrivé, mes parents étaient arrivés d'Égypte. Et donc, voilà, je l'entendais dans ces émissions-là. Et puis donc, j'ai beaucoup traîné avec lui dans les studios. Et donc, la radio était quelque chose de familier pour moi.
Simone Douek, on vous remercie chaleureusement d'être avec nous à Petit Bain ce soir.
Alors, juste avant de commencer à annoncer les résultats, on va un peu rendre hommage à tous les participants et les participantes. Donc on a une 14 productions cette année, produites donc par Rosalie Berne, Jules Valentin Boucher, Manon Brimaud, Sybille Bulou, Lucie Chocha, Thaïs Deradji-Guido, Mariam Diaby, Adèle Fourestier, Sébastien Gauthier-Anderson, Erika Hernandez, Elodie Hervier et Michael Bernard pour une réalisation à quatre mains, Nils Lauré, Garance Navarro-Hugé, et enfin Clara Rivoisi et Roxane Gilbert pour une deuxième production en duo. Donc merci à tous ces participants et participantes qui mettent à l'honneur la création sonore et qui font vivre ce concours.
Il est maintenant l'heure tant attendue de la remise des prix. Le public de Petit Bain frémit et nous aussi. Pour faire durer le suspense de ce résultat, nous allons dévoiler le nom des créations et des lauréats ou les lauréates. Et l'on commence avec la troisième place.
Alors, le troisième prix est attribué à Sébastien Gauthier-Anderson pour la création Drosophile, une création dans la catégorie Cherche la petite bête, qu'on va écouter tout de suite. Et clap, clap, clap.
Thank you.
Nous venons d'écouter Drosophile, réalisé par Sébastien Gauthier-Andersen, qui reçoit le troisième prix du concours Oreilles Curieuses. Drosophile est donc une création dans la catégorie Cherche la petite bête. Sébastien Gauthier-Andersen, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bravo, félicitations.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Et donc, vous remportez un casque Sennheiser HD25, une licence du logiciel Hindenburg, ainsi qu'un abonnement d'un an à Ocha. Drosophile sera également diffusé sur nos ondes.
Merci beaucoup, j'en suis vraiment très heureux. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Avant tout, il est peut-être important de préciser l'orthographe du titre de votre création, qui s'écrit Droso-file, F-I-L-E, comme quelque chose qui filerait, comme le mouvement. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr. Oui, alors c'est une petite blague, un petit jeu de mots, un modeste jeu de mots. Voilà, pour ce morceau, pour signifier, en fait, on parlait tout à l'heure des sons partant du réel et essayer de les transcender. Alors évidemment, c'est pas un documentaire, mais c'est vrai que dans cette catégorie Cherche la petite bête, j'ai repensé à un son que j'avais enregistré, un son d'une mouche justement qui était prise dans un piège à mouches. Donc aucune mouche n'a été torturée pour ce morceau et du coup j'ai repris ce son et je l'ai enregistré très 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 près, le micro très 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 près, donc c'est un son finalement assez rare qu'on peut pas vraiment avoir comme ça, parce qu'une mouche est assez difficile à capter son son de cette manière là et donc c'est un son qui est quasiment haptique, c'est à dire que c'est très très proche de la membrane, c'est un son qui est assez agaçant en général, on n'aime pas trop entendre une mouche voler autour de nos oreilles, donc voilà, pour ce thème Cherche la petite bête, je me suis posé cette question de quelque chose qu'on pourrait chercher et peut-être aussi inverser un peu la question, qu'est-ce que cherche cette petite bête, et essayer de créer comme une espèce d'imaginaire qui s'ouvre, d'une petite histoire, parce que dans ma démarche je suis assez attaché à ce côté narratif et symbolique des sons, et je voulais raconter cette petite histoire peut-être de l'agonie d'une mouche qui est en train de mourir, voilà, quelque chose qui s'ouvre.
Tu veux poser une question, Suzanne ?
Oui, je trouve que aussi en écoutant cette création, il y a plein d'autres sons qu'on entend que celui d'une mouche, en fait. Enfin, je trouve que vous travaillez bien aussi l'ambiguïté ou l'hybridité d'un son qui peut plus pencher vers quelque chose de mécanique ou des voitures, des bolides, etc. Et même aussi vers quelque chose de musical vers la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de parler.
Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est-à-dire que je raconte une histoire. Après, c'est un objet sonore, c'est une composition. Donc, il y a quelque chose de musical que je souhaite toujours atteindre. Et effectivement, il y a le son de la mouche et beaucoup d'autres sons qui sont rajoutés, effectivement, et qui sont sculptés, qui sont fusionnés, qui sont avec un travail de composition voilà, que tout le monde connaît, un travail de filtrage, un travail de sculpture du son. Et effectivement, le but de tout ça, c'est d'alimenter ce propos et puis d'aller chercher aussi une dimension un peu esthétique, notamment vers la fin, que ce que vous dites, c'est-à-dire quelque chose d'un peu tonique, même voire d'harmonique. Voilà, effectivement. Et tout ça part du son de la mouche, en fait, qui est principal. Et on se rend compte que si on l'accélère, qu'on le ralentit, qu'on le distord, une mouche, c'est une onde sonore qui est extrêmement, qui a beaucoup de grains, qui vibre, c'est une vibration des ailes, donc c'est très, très strié. On se rend compte qu'en le ralentissant, et en le rendant plus grave, on peut arriver à avoir des tonalités qui sont proches effectivement d'une moto, d'une motocross. En l'accélérant, on peut avoir des sons plus toniques, même une note. Voilà, on peut avoir un la, un do, ce que vous voulez, vous pouvez le transposer. Donc voilà, je voulais un petit peu redonner une voix finalement, VOIX et VOIE, à cette mouche, et imaginer ce qu'elle pouvait avoir dans cette petite tête d'insecte, voilà, à l'aube, au crépuscule de sa vie.
Et lui donner une voix, mais sans parole, sans mots. Ouais.
Alors, c'est sa manière de s'exprimer, en tout cas. Donc, je ne sais pas si elle est sans parole. Chacun peut essayer peut-être d'imaginer ce qu'il veut sur ce qu'elle peut se dire, ce qu'elle peut imaginer. Est-ce que c'est une voiture de course ? Est-ce qu'elle imagine, est-ce qu'elle s'accroche à une voiture ? Ou est-ce que c'est elle-même la voiture ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle passe dans des tunnels ? Est-ce qu'elle, voilà. Et après, il y a un travail de sculpture du son, de réverbération, etc. etc. Mais elle a son propre langage. Voilà.
Et cette sculpture du son, elle passe effectivement peut-être par votre... ce que vous-même, vous imaginez que la mouche peut imaginer. C'est vrai que moi, j'ai cru que vous aviez pris un son de moto, par exemple. Et en fait, c'est la mouche qui est travaillée. Voilà, il n'y a que juste ce son, cette espèce de de son musical étale un peu vers la fin, qui introduit, qui est un peu autre chose.
Alors, c'est toujours la mouche, c'est mais c'est simplement un travail de résonateur, voilà, de résonance avec des filtres, etc., où on peut arriver à avoir, ce que je vous disais, une note tonique. Mais je me suis gardé cette contrainte d'utiliser la voix de la mouche et de simplement cet enregistrement-là.
Voilà, et les rêves de la mouche.
Et les rêves de la mouche, exactement. Voilà, cette dimension onirique à laquelle je suis très, très attaché, ouais.
Peut-être une question pour le jury sur qu'avez-vous discuté collectivement, pourquoi avoir choisi de récompenser cette création ?
Je pense qu'on était content de récompenser cette pièce sonore parce que justement, c'était en soi un travail sur le son. C'était justement ça qui nous a intéressés et puis qui donnait une composition musicale avec ça part de tout petit peu, puis après il y a un crescendo énorme et puis après ça se calme, puis comme vous dites, elle meurt peut-être, la mouche, je sais pas. Mais c'est vraiment ça qui nous a intéressés. On est tombé d'accord là-dessus sur le fait de la création, pure création sonore. Pardon, j'ai percuté.
Merci en tout cas, merci beaucoup.
Non, mais merci à vous encore. On va peut-être passer à la suite.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, je voudrais juste vous remercier Radio Campus et aussi une petite mention à Philippe Mion, parce que je participe à l'atelier de composition électroacoustique du Conservatoire de Vitry-sur-Seine, et c'est là notamment que j'ai ouvert tous ces champs du possible dans la composition électroacoustique et acousmatique. Tous ces objets sonores vraiment où on est en écoute réduite, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qu'on écoute, c'est radiophonique, on ferme les yeux limite et on écoute simplement le son et ce qui se passe. Donc c'est voilà, vraiment grâce à Philippe Mion et à son travail depuis 4 ans où j'ai ouvert un petit peu cette dimension, parce que je viens plutôt d'une musique plus urbaine, plus traditionnelle, et en tout cas voilà, c'est vraiment un travail qui me plaît énormément et je trouve que ça ouvre beaucoup de champs du possible dans le son. Voilà, donc merci.
Et bien on espère que vous allez continuer.
Merci encore et bravo.
Il est temps maintenant d'annoncer le deuxième prix de ce concours Oreilles Curieuses. Le deuxième prix de cette édition 2022 est donc attribué à Erika Hernandez, excusez-moi, pour retransmission dans la catégorie C'était pas mieux avant. On l'écoute tout de suite et on en discute juste après.
C'était à la période où on sortait beaucoup ensemble. Quoi. C'était la période où les Portugais de Villarreal allaient beaucoup faire leur recours à Yamant. Ils avaient des belles phares. C'était moins cher, tu vois, que... Et on est allé quelques fois là-bas, on faisait les boutiques, on essayait des trucs et puis on gardait sur nous. On avait piqué des trucs, des pantalons, surtout des pantalons.
Allô ?
Oui.
Oui, ça va ? Allô ?
Ça va ?
Ouais.
Ouais ?
Tu m'entends bien ? Tu m'entends bien ?
Oui.
Oui. Oui. Tu te souviens l'année dernière quand tu m'avais lu le livre Mauvaise fille ?
Tu m'avais enregistré.
Oui. Tu m'avais raconté comment tu volais des pantalons à Yamonte.
Oui.
Ils avaient des belles fringues.
Et que je t'avais aussi enregistré. Est-ce que tu es d'accord pour que j'utilise ces enregistrements pour... Non, on n'entendra pas tout ce que j'ai monté et trafiqué.
Dans la mise au jour d'une vérité dominante, que le récit de soi recherche pour assurer une continuité de l'être, il manque toujours ceci. L'incompréhension de ce qu'on vit au moment où on le vit. Cette opacité du présent qui devrait trouer chaque phrase, chaque assertion.
Je peux, t'es d'accord?
Bien sûr.
Si on ne reconnaîtra pas que c'est moi.
Si, on reconnaîtra ta voix quand même.
Tu me feras écouter après? Oui, je te ferai.
Est-ce que t'es d'accord aussi pour que j'utilise l'enregistrement de cet appel?
Oui, d'accord. On va entendre ma jolie voix.
À travers le téléphone.
Au téléphone.
Voilà.
À ce moment-là, j'étais bien mince, tu vois, et je mettais un jean et après mon jean par-dessus, et on sortait comme ça. C'était à la période. Bon, et une fois, on a failli se faire choper. Hein. Ah, ils nous ont couru après et tout, hein, les gens de la boutique, là. C'était beaucoup ensemble, quoi. Mm. Et on a réussi à aller s'aimer, on a pris le bateau, aller rentrer à Villarreal, mais plus jamais, quoi.
Nous venons d'écouter Retransmission, réalisée par Erika Hernandez, qui reçoit donc le deuxième prix du concours Oreilles Curieuses. Vous êtes parmi nous, Erika Hernandez, félicitations.
Merci.
Et pour récompenser votre création, nous avons le plaisir de vous offrir un enregistreur Zoom H2, un casque Sennheiser HD25, une licence Hindenburg News et un abonnement d'un an à OSHA. Et votre création sera également diffusée sur nos ondes et sur radiocampusparis.org.
Merci.
Erika Hernandez, on entend beaucoup de choses dans votre création. On entend une voix, une autre qui semble être la vôtre,
oui.
Un appel téléphonique. Je crois qu'il y a un travail sur... on entend votre mère, et donc c'est un travail aussi sur la transmission mère-fille. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Oui, c'est parti de cette idée effectivement de relation mère-fille et aussi de la fascination pour l'enregistrement en fait, et l'enregistrement à la volée, parce que maintenant on a tous en gros un dictaphone, on peut tous faire l'expérience alors qu'avant c'était réservé à ceux qui avaient un magnétophone, etc., un micro, et c'était pas forcément tout le monde. Mais maintenant, on a tous un dictaphone dans notre poche et je suis sûre que beaucoup de personnes, sans forcément avoir d'ambition de faire des créations sonores ou quoi, enregistrent des choses comme ça à la volée. Et quand on réécoute, en fait, ou même maintenant avec les messages vocaux, voilà, surtout avec WhatsApp et tout, ou les Messenger, on peut enregistrer des messages vocaux et on les réécoute parfois. On réentend sa propre voix, on entend la voix des autres. Ce qui est troublant, c'est qu'on entend un moment qu'on a vécu, mais avec le différé, enfin l'effet de différé, et il peut y avoir quelque chose d'assez troublant et de vertigineux. Donc j'avais aussi envie de travailler sur ça. Et en plus, là, comme c'est un moment où ma mère me raconte un souvenir, et une chose que j'ignorais totalement d'elle, il y a aussi la question de la mémoire et du récit, enfin du fait de se raconter. Donc voilà, c'est la fixation du temps, en fait, qui passe aussi à travers l'enregistrement, en fait, et... C'est quelque chose de très troublant pour moi, en tout cas, voilà, d'entendre ça. Voilà. Donc c'était ça que j'avais envie de transmettre dans la création. Voilà.
Mais ce trouble, j'ai l'impression qu'on l'entend dans votre travail de la voix, qui se fait écho, qui se répète.
Oui, en fait, c'est aussi pour ça que je l'appelais retransmission. C'est parce qu'il y a toujours une espèce de travail de mise en abîme et de répétition, et ça se fait aussi dans la voix. Après, je trouve que la voix, ça peut aussi très rapidement devenir un instrument, oui, c'est un instrument d'ailleurs, mais devenir une matière sonore au même titre que les autres. Donc, c'était aussi ça que j'avais envie d'utiliser. Et voilà.
Mais c'est vrai que vous auriez pu simplement prendre un enregistrement, comme vous le décrivez, qui vous trouble parce qu'il est passé, ou voilà, qu'il est enregistré. Mais vous l'avez dédoublé avec cet ajout de multiples effets qui soulignent cette non-coïncidence, un peu ce problème de signal. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça.
Oui, ça souligne le trouble, je pense, enfin, ou l'effet peut-être onirique un peu du récit, parce que le récit, c'est pareil, on raconte, c'est quelque chose qu'on a vécu, on le raconte, on le filtre, finalement. Tout à l'heure, Sébastien, il parlait de filtrer les sons, mais là, c'est pareil. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre cette petite phrase qui est extraite de Mémoire de fille de Annie Ernaux, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément sur le récit de soi et sur la construction de l'identité à travers le récit de soi et la mémoire. Et donc, ça m'intéressait de parler de ça aussi dans cette petite pièce.
Et on peut vous demander un peu votre parcours, votre rapport au son. Est-ce que c'est par cette fascination de l'enregistrement que vous êtes amené à faire de la création sonore ?
Non, pas vraiment. Enfin, au départ, je fais plutôt de la musique actuelle. Et il se trouve que je fréquente le même atelier que Sébastien Gauthier-Anderson à Vitry. Et j'ai commencé à m'intéresser à la musique acousmatique, dans notre cadre au conservatoire du 7e avec Régis Renoir-Larivière, puisque je le cite aussi. Et petit à petit, ça m'a amené. J'avais très envie de travailler sur la voix aussi. Et donc, c'est la première fois que j'ai osé. Et sinon, j'ai une grande fascination. Enfin, j'aime beaucoup la radio, en fait. Donc, voilà, j'ai toujours beaucoup écouté la radio. Et donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'entendre les voix. C'est assez troublant, souvent. Toute cette question de la voix, en fait, ça a quelque chose de... qui n'est aujourd'hui, enfin, ce que je trouve super par rapport à ça, c'est que ça échappe à cette société de l'image dans laquelle on est. Donc voilà, ça m'intéresse de travailler là-dessus.
Simone Douek, est-ce que vous voulez réagir à titre personnel ou au nom du jury d'Oreilles Curieuses ?
Je peux déjà dire qu'effectivement, c'est cette fascination, cette espèce de vertige dans lequel vous vous êtes lancé, nous a effectivement énormément intéressé. Et moi, j'avais une question, en fait. Je me disais, pourquoi est-ce que ce souvenir, vous avez eu la nécessité de le mettre en forme de cette façon-là? C'est-à-dire qu'on sent ce vertige que vous avez et dans lequel vous aimez à vous noyer, finalement, un petit peu. Mais en quoi cela peut parler pour vous d'un souvenir, un souvenir de cette petite conversation? Alors c'est joli ce que vous venez de dire, que vous ne saviez pas ce que votre mère vous avait raconté sur l'histoire du vol des pantalons. Et en même temps, on l'oublie, cette histoire. Il y a autre chose qui se passe avec ce vertige d'écho, quoi.
C'est vrai que l'aspect anecdotique, c'était vraiment ce qui m'avait motivée au début. Parce que je trouvais ça assez rigolo. En fait, c'était l'aspect transgressif qui me plaisait. Le fait que ma mère, qui soit une femme bien sous tout rapport, me raconte qu'elle volait des pantalons quand elle était adolescente, je trouvais ça assez savoureux. Et voilà, le fait que... Enfin, l'aspect transgressif aussi... ça me plaisait de parler de cet aspect transgressif dans un rapport de transmission. Enfin, de transmission, en tout cas, de transmission. Le mot est peut-être... un peu excessif, mais de récit d'une mère à sa fille. Donc ça me plaisait de prendre ça dans un premier temps, d'utiliser ça, on va dire. Et ensuite, à force de réécouter en fait ces sons-là, il y a eu cette question du vertige de l'enregistrement qui m'a frappée en fait. Et comme je voulais pas utiliser cet enregistrement sans lui demander son accord, puisque j'avais enregistré sans lui demander son accord, pour ne rien vous cacher. J'ai eu envie d'enregistrer aussi une transmission, mais dans un autre sens, où c'était moi qui lui posais la question. Et donc, voilà.
Donc, une sorte de mise en abîme, finalement.
Oui, il y a une mise en abîme.
De making-of aussi, de la pièce, la petite pièce radiophonique.
Oui, on va dire qu'il y a une transmission dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Enfin, finalement, je lui rends l'appareil, elle m'a donné quelque chose et j'ai envie de lui donner quelque chose peut-être.
C'est ça, et c'est un peu ça, l'écho aussi, le vertige, parce que c'est plein d'échos en plus.
Oui, je crois que c'est ça et je crois qu'il y a aussi une part de trouble et d'insaisissable, effectivement, l'aspect insaisissable de ce moment qui est fixé à tout jamais et qui en même temps nous a échappé ou nous échappe encore. Enfin, voilà.
Il y a aussi votre mère qui demande si on la reconnaîtra ou pas.
Oui. Pour ceux qui la connaissent, ils l'auront peut-être reconnue.
Après, c'est pas très grave parce que
non.
Voilà. Et puis, si je veux parler donc de nos réactions dans le jury, eh bien, effectivement, on a été sensible à cette vraie recherche sonore, quoi, ce travail sonore, de prendre cette voix et puis d'en faire. Plein de choses, quoi. Voilà, oui, c'est au niveau de vraiment du travail sonore qu'on a été très intéressé par votre pièce.
D'accord. Merci.
Bah encore bravo.
Merci.
Et on va pouvoir passer au premier prix. Je laisse.
Mesdames, messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, nous avons à présent l'immense plaisir de vous annoncer le nom du lauréat du premier prix de cette 5e édition d'Oreilles Curieuses. L'émotion est à son comble à petit bain. Le public transpire à grosses gouttes, les corps se tendent, les doigts se crispent, tandis que les auditrices montent le volume de leur radio. Et vous faites bien, il s'agit là du moment le plus fort de cette soirée de remise des prix. Je laisse donc à Suzanne l'honneur de cette annonce.
Alors, la grande gagnante de ce concours est Mariam Diaby et sa création Fond de tiroir, trésor d'hier. Grand bravo à Mariam. Et on vous laisse le plaisir d'écouter cette création.
Main poussiéreuse, bande usée, rembobiner l'histoire à la mémoire de nos parents, exil forcé. Correspondance auditive, faire vivre l'absent, alphabet réapproprié, analphabète loin d'être estropié, ingéniosité de l'indigène illettré. Play, stop et jette. Fond tiroir, trésor d'hier.
Pourquoi c'est venu à cette époque-là? Il n'y a pas beaucoup de pluie à Sénon. Si on cultive, on ne peut pas trouver qu'est-ce qu'on peut vivre. C'est ça qui amène les causes africaines beaucoup, surtout nous les Maliens, surtout les Sonkaï, plupart, 97%, on est venu en France, on est immigré ici à cause de la pluie qui manque chez nous à cette époque-là. Vers 72, 73. 73, c'était une année catastrophe. Il n'y a pas de pluie dans tous les Afriques, ceux de Sahara, l'Afrique, l'Ouest, surtout au Mali. C'est ça qui nous amène. Bon, les cassettes, ça commence à partir de 1975, à l'époque. Les cassettes, c'est comme notre, comme WhatsApp aujourd'hui. À l'époque, si tu veux envoyer un message à quelqu'un, tu fais une cassette radio, tu exprimes ton parole, tu l'envoies. Lui aussi, il te répond. Nous, les Africains, surtout les Maliens, région Kai, c'était électré en français. À cause de ça, on renvoie notre message dans notre langue en cassette. Comme ça, lui, il écoute et lui aussi renvoie. Bon, c'est ça qui est notre pratique.
D'accord, mais ouais. En 75, ouais. Est-ce que c'était possible de passer des coups de fil, d'appeler en fait, ou c'était compliqué?
C'était un peu compliqué, bébé. Si on veut l'appeler quelqu'un, on l'appelle en Afrique. À l'époque, la poste, il marche bien. Bon, on l'appelle et un vide appel en téléphone. Mais c'était trop cher, trop cher. C'est pour ça. Les gens ont pratiqué beaucoup de cassettes. si je parlais avec quelqu'un dans les cassettes, comme quelqu'un devant moi, je parlais mon secret et moi, j'ai envie, ce que je voulais dire à lui, je dis à la cassette. Bon, on renvoie notre message, c'est nos problèmes, j'ai ça, je voulais travailler ça, je travaille ça, les nouvelles de famille, je suis en France, est-ce que la France est dure et pas dure, qu'est-ce qu'est le problème, tu travailles pas. Bon.
Et alors, ça faisait du bien de parler de ça?
Ah ouais, c'était bien. Bon, pourquoi si on ne parle pas, on ne donne pas notre nouvelle? Les parents, ils n'est pas tranquilles, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a où ils arrivent ici. Nous aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Quand même, pour nous, c'est bien. Bon, pourquoi ça donne beaucoup de nouvelles? Des informations, des villages, des pays, actualités. Bon, ça donne beaucoup de choses qui sont très bien. Bon, les temps n'étaient pas trop courts pour joindre rapidement.
D'accord.
Bon, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est très. C'est très, très bon. À l'époque, on peut faire 2-3 mois, on n'a pas de nouvelles des villages. On n'a pas de nouvelles. On peut faire 3-4 mois même, on n'a pas de nouvelles. Si quelqu'un vient, il nous amène les cassettes. Nous,
d'accord. On s'en va. En fait, la cassette, pour l'envoyer, vous la donnez à quelqu'un qui allait au village.
Voilà, lui aussi, c'est quelqu'un qui va venir, il va nous amener.
Il donnait la réponse.
Voilà la réponse. Il y avait une confiance qui était rétablie entre nous. Bon, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais.
Fond tiroir, trésor d'hier.
Donc, nous venons d'écouter le premier prix du concours Oreilles Curieuses, fond de tiroir, trésor d'hier, qui est une création de la catégorie fond de tiroir. Encore félicitations, bravo.
Merci beaucoup, merci.
Et vous remportez.
Vous remportez une place pour la formation création sonore dispensée par l'onde porteuse à Clermont-Ferrand, ainsi qu'un enregistreur Zoom H4N, un casque Sennheiser HD25 et une licence Hindenburg et un an d'abonnement à Ocha. Comme les autres créations, gagnante, fond de tiroir trésor d'hier, sera bien évidemment diffusée sur Radio Campus Paris et sur notre site internet.
Super, merci beaucoup.
Bah, merci d'avoir rejoint le plateau. Voulez-vous présenter votre création au public et aux auditeurs, aux auditrices?
Alors du coup, j'ai choisi comme thème les fonds de tiroir. Ça m'a inspiré cette histoire de cassette audio, comme vous avez pu l'entendre par Monsieur Cissé, qui a été très sympa d'accepter de faire un entretien avec moi. Donc, comme il dit, à l'époque, en fait, les immigrés analphabètes n'avaient pas la possibilité de pouvoir lire et écrire et du coup envoyer des courriers à leur famille. Donc ils utilisaient en fait des cassettes audio qu'ils leur envoyaient par l'intermédiaire d'une personne qui se rendait au pays. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet ultra précieux, intéressant, qu'il fallait transmettre. Et aussi, je trouvais que c'était intéressant d'entendre des accents, des expressions, des tournures de phrases de personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les podcasts aujourd'hui. Donc voilà.
Merci. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que ce qu'on entend principalement dans votre création, c'est la voix de cette personne qui raconte. Mais ce n'est pas forcément les cassettes en elles-mêmes d'époque, mais c'est comme si vous reproduisiez un peu ce geste de s'enregistrer devant une cassette au présent aussi maintenant. Est-ce que vous aviez pensé à intégrer aussi des sons de cassette? Est-ce que c'était difficile à retrouver, à récupérer? Est-ce que ce n'était pas une idée de départ?
Alors l'idée de départ déjà, c'était de pouvoir faire l'entretien en cassette avec un magnétophone, ce que j'avais fait. On entend un petit peu des extraits dans la création. Mais la piste, en fait, elle n'était pas exploitable. Donc, par sécurité, j'avais enregistré aussi avec mon Zoom. Malheureusement, dans les cassettes qui ont été envoyées, en tout cas, ces correspondances sonores, j'ai pas pu mettre la main dessus. Donc voilà. Quoi.
Et comment avez-vous découvert ce sujet des cassettes audio qui est très intéressant?
Alors, du coup, mes parents sont aussi originaires du Mali, de la même région que M. Cissé, de la région de Kaï. Ils étaient aussi analphabètes, mais ils n'avaient pas forcément recours aux cassettes audio. Ils se faisaient écrire les lettres souvent par mes grands frères et mes grandes sœurs. Mais mon père, quand il se rendait au Mali une fois dans l'année, la famille lui remettait des cassettes audio pour qu'il puisse les remettre. Donc il faisait partie de ces personnes intermédiaires de confiance à qui on transmettait ces cassettes. Et c'est comme ça que j'ai eu la connaissance de ces cassettes audio. Donc j'ai vu circuler des enveloppes avec des cassettes et j'ai compris que en fait, ça servait à correspondre et à avoir des nouvelles du pays. Donc voilà.
Simone, vous vouliez réagir ?
Oui, dire d'abord... Bon, pourquoi, enfin, tout ce qui nous a séduit dans votre pièce sonore, alors qu'il n'a pas de l'ordre de la création sonore proprement dite ou du travail sur le son, mais c'est d'abord quand même, c'est quand même un hommage au son, c'est quand même une histoire de son, cette histoire de cassette. Ces gens qui peuvent communiquer comme ça à travers les cassettes. Donc ça, deuxième chose qui nous, enfin, je trouve le contenu très très fort finalement, très important, cette manière aussi de parler des migrants par un côté, je veux dire par une chose très très précise qui renseigne beaucoup. Vous parliez des tournures de phrases qu'on entend et moi j'ai été tout à fait séduite d'entendre, par exemple, ben, on est venu parce qu'il n'y avait pas assez de pluie. C'est très poétique de dire ça, même si c'est une dure réalité. Ou encore, je dis mon secret à la cassette. Ben, ça, c'est très beau. Mm. Voilà. Et donc, on a trouvé que la démarche était assez forte. Ben, moi, j'ai aussi bien aimé votre début en forme de rap, un peu.
C'est ça.
Ça, c'est vous, en fait, ouais. Parce que vous faites du rap, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ouais.
Voilà. Et puis, donc c'est plus une démarche d'ethnologue presque là que vous avez faite,
non ? Ok. Ben je l'avais pas forcément vu comme ça, mais c'est intéressant que vous le souligniez. Je trouve que c'est important de raconter ces histoires quoi et de se dire qu'ils ont vraiment fait preuve de créativité, d'ingéniosité. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pauvre et qu'on sait pas lire, qu'on sait pas écrire, comment on se débrouille quoi. C'est vraiment l'art de la débrouille. C'est ce qui m'a parlé et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de dire, on est immigré, on est précaire, mais on n'est pas dans une position passive, on arrive à faire des choses et à pouvoir avoir des nouvelles du pays, être toujours connecté, et aussi briser l'isolement lié à l'exil. Quoi. Quand il dit, c'est comme si j'avais la personne devant moi, je l'entendais, il entend sa voix, il entend la personne, j'ai trouvé ça vraiment fort. Quoi. Donc voilà.
Voilà, c'est ce que vous avez voulu nous dire, en fait. Hein, ça,
c'est ça, exactement.
Faire entendre. Voilà, je pense que la réaction du jury, elle a été aussi unanime sur votre travail.
Merci beaucoup, merci.
Est-ce que c'était votre première pièce sonore ?
On va dire oui, la première, puisque du coup j'en ai fait une, mais dans le cadre d'une formation avec le collectif Transmission, que je salue d'ailleurs. Qui a monté un lieu à Aubervilliers qui s'appelle La Cassette et ils organisent des formations de création sonore. Du coup, j'avais réalisé un autoportrait dans ce cadre-là, mais là, fond de tiroir, c'est du coup la deuxième. Donc, voilà.
Vous allez continuer, je suppose.
Oui, carrément.
Merci beaucoup, Marianne Tamine. Félicitations encore
Merci.
Une fois.
Merci beaucoup.
Cher public, chers auditeurs, chères auditrices, nous vous réservons une dernière surprise, et pas des moindres, puisque le jury a choisi de récompenser Manon Brimaud par un prix d'honneur pour sa création Le Détonateur, dans la catégorie Les fonds de tiroir. On l'écoute tout de suite.
Où est-ce que j'ai mis mon détonateur ? Pas ici. Non. Mon petit détonateur, qu'il est, où qu'il est. Pa-pa-pa-pa-pa. J'étais sûr qu'il l'aurait mis là. Petit détonateur, où que tu es, où que tu es. Papa, détonateur, où caches-tu ? Il n'est pas là, il n'est pas ici, il n'est pas là. Papa, papa, papa. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta.
Vous venez d'entendre le détonateur réalisé par Manon Brimo, qui reçoit le prix d'honneur de notre concours d'Oreilles Curieuses de la 5e édition. C'est une création dans la catégorie fond de tiroir. Manon Brimo, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez nous présenter en quelques mots votre production ?
Oui. Alors, c'est l'histoire d'une personne indéterminée et un peu folle qui a perdu son détonateur et qui cherche dans tous ses tiroirs. Et le hasard et la folie fait que ça fait un peu de la musique à la fin. Une musique qui rend un peu fou. L'idée, c'était un peu de... j'avais envie de travailler la spatialisation, mais j'avais jamais fait ça avant, donc c'est très modeste. Et tous les bruits qui sont dans les tiroirs sont des bruits que j'avais enregistrés avec un petit zoom. Avec un ami, on était parti en exploration sonore, on a enregistré tout ce qu'on trouvait. Et depuis, j'aime bien les assembler et parfois même laisser un peu le hasard faire de la musique, quoi, à partir des bruits du quotidien et même tout type de bruit que j'ai pu enregistrer.
Alors, ce de... Vas-y, c'est
ça. Je dirais que c'est pas que le hasard, c'est aussi votre sens du musical, les sens du rythme, etc. De les
oui, assembler. Mais j'aime bien aussi parfois juste... Je choisis le bruit et parfois juste la magie des sons qui se mettent ensemble. Après, oui, bien sûr qu'il y a des choix aussi. Je les assemble, mais il y a une petite partie de hasard que j'aime bien quand même et que je souligne du coup.
Et c'est vrai qu'on sent dans votre création le côté émergence en fait. C'est pas là dès le début et ça arrive petit à petit. Et...
Ouais, bah c'est carrément ça. Et même quand je le fais, c'est. Bah, je commence par choisir mes bruits, après je les mets ensemble et c'est un peu comme si c'était un petit chemin qui allait de soi et qui amenait à un truc sonore.
C'est intéressant aussi que vous ayez gardé l'élément de ce personnage de la voix qui s'intègre dans le musical et en même temps qui s'en détache aussi, qui ramène un petit côté humoristique.
Ouais, c'est ça. Bah, j'avais envie que ce soit un peu drôle. Honnêtement, je ne m'imaginais pas du tout recevoir un prix ou quoi que ce soit. Une part de moi aurait aimé que ça tombe dans l'oubli, mais bon, c'est chouette. Je suis très contente d'être là. Et ouais, un peu d'humour, j'aime bien. Et cette petite voix, enfin, à la fin, je trouve qu'il y a un petit côté où c'est très... on a l'impression d'être devenu fou avec cette voix, justement, et c'est ce petit côté-là que j'aime bien. Et je salue Pierre, qui a gentiment prêté sa voix et un peu de sa folie à cette création.
Simone Dweck, est-ce que vous voulez nous expliquer le choix de ce prix d'honneur ?
Ben, c'est justement cette espèce de séduction de ce qui est un peu drôle, comme ça. On s'est dit, il y a quand même quelque chose... Moi, j'avoue, je ne sais pas où est le hasard, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très, très construit. quand même. Et ce qu'on a aimé, c'est ça, cette émergence d'une musique, de quelque chose qui, au départ, n'était pas supposé être une musique, quoi. Et que tout d'un coup, les sons tournent et tournent et tournent. Et puis, bah voilà, on a une petite musique. Ça nous a plu. Le côté drôle, oui, le côté un peu humoristique. Voilà. Mais le hasard, je sais pas, il est où là-dedans?
Bah, en fait, oui, c'est très construit. Dans, je choisis mes sons, je fais la musique avant de la déconstruire pour la reconstruire dans l'histoire. Mais il y a quand même vraiment du hasard dans le sens où parfois je suis moi-même surprise de la tournure que ça prend. J'ai une idée, bien sûr, et un truc très construit, mais qui se construit avec des petites surprises que je me prends par-ci par-là, et c'est un des aspects que j'aime beaucoup, et du coup c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le hasard, même si oui, il y a forcément quelque chose de très construit, et je pense que plus c'est construit, plus on peut se permettre aussi un peu de hasard et de surprise.
Ouais, c'est un peu le surgissement de plutôt l'inattendu, moi je dirais.
Oui, alors, ouais.
Hein, c'est l'inattendu qui vous arrive, comme ça arrive dans un documentaire souvent en enregistrement.
Oui, aussi.
Et c'est presque que vous donnez à entendre aussi votre processus de création, de composition, comment à la fois vous êtes l'auteur et le premier auditeur de votre musique.
Oui.
Et ça s'ajuste à...
Oui, très juste. J'avais jamais vu des choses comme ça, mais... Ouais.
Simone Veil, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Sur le concours en général.
Sur le concours en général, moi je trouve que c'est toujours formidable d'entendre des nouvelles créations, de voir que ça suscite toujours des désirs finalement de création. Il y a eu des choses très très différentes. Et voilà, donc on a non, mais c'est.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futures participantes et participants?
Oh là là, c'est très difficile de donner des conseils comme ça, comme si.
Ou des impairs à ne pas commettre.
Ah ben, déjà, dans un premier temps, essayer d'enregistrer proprement. Il y a une des créations, par exemple, où il y avait des tas de bruits de micro, de souffle dans le micro, de choses comme ça. Il y en a une que j'ai franchement beaucoup aimée, que j'ai trouvée très humoristique, qui était l'histoire d'un hold-up. Mais malheureusement, on ne comprenait rien, on n'entendait rien. C'était plein d'humour. Mais moi, c'est ça le premier conseil que je donnerais peut-être, de soigner le son, la prise de son. Après, bon, ce sont des choses qui se font pas à pas, je crois, et avec l'inattendu, comme vous dites.
Hein. Merci pour ces mots de la fin. Je vais passer à la section de remerciements. Donc bravo encore aux lauréats de cette 5e édition. Merci d'être venu ici à Petit Bain nous parler de votre travail. Merci à tous les membres du jury qui ont été représentés ce soir par vous, Simone Veil. Merci d'être venu. Et je les cite à nouveau. Audra Billon, François Bordonneau, Mathilde Schoner-Sebag, Wes Stéphane et Adrielle de Guillermier. Merci évidemment à chacune et chacun des participants, à ce concours. Merci à nos partenaires, Paul Boucher, Ocha Podcast, Hindenburg News, L'Onde Porteuse, et merci encore à Petit Bain de nous accueillir. Merci Jonathan Carras pour la réalisation. Et restez à l'écoute parce que la soirée continue avec un live de l'artiste expérimental et pluridisciplinaire Théa Sotti. A tout de suite sur Radio Campus Paris.
Oreilles curieuses, le concours de création sonore de Radio Campus Paris. En direct depuis Petit Bain de 18h à 21h.